La revue de presse avec vous, Rosalie Lafarge, cette presse dominicale qui hésite ce matin entre passé et avenir.
Demain, vivrons-nous tous comme des taupes? On est en droit de se poser la question quand on lit le hors-série du magazine The Good Life. Il nous emmène directement en 2038 et s'interroge sur la ville de demain. La planète n'est pas extensible, la population va continuer d'augmenter, alors où habiterons-nous dans 20 ans? Pourquoi pas sous terre? Au Mexique, une agence d'architectes y pense. Elle a renversé la typologie du gratte-ciel pour en faire un gratte-terre, une tour de 65 niveaux creusée dans le sol. La construction permet l'éclairage naturel et offre des conditions thermiques favorables, nous dit-on. Après, forcément, ouvrir la fenêtre pour aérer devient une idée assez saugrenue.
Saugrenue aussi, au moins pour certains, cette idée d'embaucher un robot comme hôte d'accueil d'un hôpital belge.
Depuis plus d'un an maintenant, Pepper est chargé d'accueil à l'hôpital d'Ostende, une première mondiale. Mais un fiasco, à en croire Ouzbek Erika. Le magazine relève une accumulation de bugs et de problèmes techniques. Le robot n'est pas franchement autonome. Pour fonctionner, il a besoin de calme. Un bruit parasite lui fait perdre ses moyens, un peu fâcheux à l'hôpital. Et puis, l'un des atouts mis en avant de Pepper, c'était sa capacité à accompagner un patient perdu jusqu'à la bonne porte. Sauf que la machine s'arrête au moindre obstacle et les ombres ou les rayons de soleil projetés sur le lino, le robot les interprète justement comme des obstacles.
Alors ce n'est effectivement pas très concluant tout ça et bien loin des arguments de vente.
Sur le site de l'entreprise qui programme la machine, on vous vante un robot qui va de chambre en chambre pour prendre des nouvelles des patients. Un robot qui peut aussi avertir le personnel si quelqu'un a besoin d'aide. Ouzbek Erika a interrogé le patron de cette société sur cette coquette distorsion. Il a joué l'étonné. Nous avons écrit ça. Non. Les robots humanoïdes de service ne sont aujourd'hui capables que de tâches répétitives et de base. Je vais taper sur les doigts de mon service com. Mais bon, conclusion, la généralisation des robots à l'hosto, ça n'est a priori pas pour demain.
Alors, perspective plus proche cette fois, mais plus inquiétante aussi, celle de la sortie de prison à venir de plusieurs détenus condamnés pour terrorisme.
Et c'est l'objet d'une enquête du journal du dimanche. Dans les deux ans qui viennent, la justice va se trouver face à un casse-tête, prévient le JDD, celui de gérer la sortie de prison de plusieurs dizaines de djihadistes. Leurs peines vont arriver à terme. Et après, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on surveille? Comment on surveille? Qui on surveille? Parce que la grande inconnue, c'est le degré de dangerosité de ces détenus libérables. La chancellerie se dit prête à faire face, promet une note de signalement pour chaque détenu radicalisé qui sort. Le ministère de l'Intérieur confirme, pour chaque individu, un service aura la charge de lever le doute ou de confirmer la dangerosité.
Et plutôt que d'aborder les perspectives, eh bien, certains titres de la presse ce matin préfèrent dresser le bilan de l'année écoulée.
Les héros de 2017 dans Match, les plus beaux exploits sportifs de l'année en photo dans l'équipe magazine. Et le prix de l'entreprise qui vous a le plus pourri la vie cette année, décerné par le magazine 60 millions de consommateurs, il revient à SFR. Pannes interminables, résiliation compliquée, hausse des tarifs. En plein été, l'opérateur est champion. Et c'est le moment d'aller lire cette enquête sur lesjours.fr. Chez SFR, le travail abîmé. D'anciens salariés expliquent ce qui les a poussés à partir et notamment la honte vis-à-vis des prestataires éliminés, des fournisseurs non payés, mais aussi la honte vis-à-vis des clients maltraités et de l'image dégradée.
Et si les solutions d'avenir étaient parfois celles du passé?
Dans le Jura, on relance la bonne vieille consigne des bouteilles en verre. Et oui, parce qu'à l'heure où l'on pense revalorisation, recyclage, filière, la pratique la plus écologique, ça reste la consigne. Et c'est à lire sur le site de Bastamag. Dans les années 70, on a globalement arrêté de rapporter les bouteilles en verre. Ça n'était plus assez rentable. Aujourd'hui, certains pensent toujours que ça coûte plus cher et que c'est plus polluant de s'y remettre. Faux, répondent les porteurs du projet dans le Jura. Préférer la consigne à la refonte des bouteilles, c'est rejeter beaucoup moins de dioxyde de carbone. Et oui, visiblement, c'était mieux avant.
Contre-exemple, dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin.
Avec un article sur l'application Save Life, qu'on pourrait surnommer le Tinder de la crise cardiaque. Dans les deux cas, ce sont des affaires de cœur, mais pas tout à fait les mêmes. Si Tinder permet de faire des rencontres, Save Life, pensé par un médecin urgentiste, a l'ambition de sauver des vies. L'idée de base, géolocaliser sur la base du volontariat évidemment, les personnes capables de pratiquer un massage cardiaque. Quand le SAMU reçoit un appel, il déclenche les secours et l'application. Il peut ainsi guider un volontaire vers un défibrillateur, puis vers la victime. Un précieux gain de temps potentiel quand on sait qu'en France, il faut en moyenne 10 à 13 minutes au secours pour intervenir.
Ça dit, les progrès de la technologie accouchent parfois d'initiatives plus étonnantes.
Dans son numéro du week-end, Libération nous offre un tour d'horizon des accessoires d'aujourd'hui les plus absurdes. Des solutions aux problèmes qu'on n'avait pas. Comme ce grille-pain connecté, il toaste la météo du jour sur la tartine. Cet oreiller connecté qui nous dit qu'on a mal dormi, au cas où on ne l'aurait pas remarqué tout seul. Mais le summum du malaise pour Libé, c'est un matelas. Il est équipé d'un système de détection d'amants et il envoie une alerte quand il identifie une séance de galipettes.
Bon, c'est un cadeau de Noël comme un autre. Et tout compte fait, c'était donc peut-être vraiment mieux avant alors.
Alors pour les cadeaux de Noël, pas sûr. Allez faire un tour sur le Huffington Post. Un épluchage en règle de vieux journaux a permis de dresser la liste des cadeaux tendances d'avant-guerre. On apprend par exemple qu'entre 1931 et 1939, il n'était pas rare d'offrir une visite médicale, un examen de la vue ou même une assurance vie à un proche, priorité à l'utile. On prend aussi connaissance de cadeaux qui ne sont plus très en vogue. Qu'est-ce qu'une frégolette? Un terme qui a un petit peu disparu de notre vocabulaire. Et ben c'était très utile en 1928 et c'était très offert. C'était un bracelet qu'on mettait autour de l'escarpin qui permettait de le faire tenir et de ne pas avoir le pied qui baillait parce que c'était pas très
très élégant, effectivement. C'est un cadeau qui peut revenir. Pourquoi pas? Merci beaucoup. C'était la revue de presse dominicale de Rosalie Lafarge.